Oui.
Bonjour, merci beaucoup pour vos exposés. Et moi, il y a quelque chose qui a fait un peu tilt à la réflexion que je me suis fait récemment, en particulier sur les catégories socioprofessionnelles, c'est qu'une des limites de plus, si je puis dire, dans la prise en main des big data, c'est que les indicateurs que l'on prend peuvent répondre à des définitions qui sont hyper compliquées. Prenez l'exemple des catégories socioprofessionnelles en disant qu'effectivement c'était des grandes catégories et il manquait les revenus. Et en fait, je me demande si c'est pas ça aussi un petit peu la limite, c'est-à-dire qu'on est de plus en plus d'indicateurs à mélanger. Effectivement, ça pose des questions intéressantes de méthode, et ça n'empêche qu'il y a, à mon avis, de plus en plus d'imprécisions sur les catégories qu'on prend au départ. Par exemple, effectivement, on peut prendre le chômage, mais qu'est-ce que c'est le chômage? En quoi on peut comparer déjà un chômeur en France par rapport à d'autres chômeurs ailleurs en Europe? Il y a plusieurs classes de chômeurs. Il y a souvent des polémiques sur la question des chiffres du chômage, etc. Et la question se pose encore une fois sur chaque catégorie. C'est quoi un électeur de droite par rapport à un électeur d'extrême droite, qu'est-ce que c'est qu'un ouvrier, entre un ouvrier peu qualifié, très qualifié, une position intermédiaire. Et je pense que la limite, elle est un petit peu là. Parce que j'ai aussi l'impression qu'au fait de recensement en recensement, les définitions évoluent. Et que si en plus, à tous ces traitements, on y ajoute la dimension temporelle, on est vite bloqué aussi parce qu'il n'y a pas d'homogénéité de la définition. Non seulement les définitions sont de plus en plus floues, enfin, de mon point de vue, c'est l'impression que j'ai, et en plus, elles sont difficilement comparables.
Oui, non, je vous donne assez largement raison sur la question de ce qu'on appelle la critique des catégories, si vous voulez. Donc, bon, c'est le travail de Desrosières, de gens comme cela. Mais en même temps, on peut, je pense, ce qu'on vous ai montré, ça se poursuivra même si on avait des catégories très fines, si vous voulez. C'est-à-dire, le seul exemple que je puisse donner, c'est, enfin, ça fait deux exemples, quand on tronçonne, par exemple, les catégories d'âge. Plus on tronçonne fin, moins on gagne. Il y a quand même... donc là aussi, on atteint assez vite une limite. Et même chose pour les... Mais là, par contre, l'hétérogénéité résiste. Plus, c'est pour l'espace aussi. C'est un peu... là, vous avez vu, j'étais au niveau des communes, des cantons, des départements. Donc, effectivement. Mais même... ça veut dire aussi que... en augmentant le nombre non pas des catégories, mais des items de chaque catégorie, pour les ouvriers, un classement tout à fait fin, j'augmente dans l'exemple que je donnais à la fin le nombre des cases, si vous voulez. Donc on va se heurter de toute manière à la difficulté que j'ai signalée. Alors, la critique des catégories, ça, au fond, était une très grande mode, était très importante, je dirais, peut-être dans les années 1990, autour de cela. Je vois, par exemple, un historien que nous connaissons, Maurizio, avec qui on travaille, Maurizio Gribaudi, qui venait de la Microstoria, a fait une critique tout à fait intéressante dans un travail qu'il a fait publier avec Alain Blum, je crois que c'est dans Annales ESC, où il a examiné, au lieu d'utiliser les catégories standards pour le 19e siècle, la base de données, c'était des mariages au 19e siècle, où on avait la catégorie sociale des parents du marié, des parents de la mariée et des mariés eux-mêmes. Et on ne tirait pas grand-chose quand on faisait... l'historien qui avait travaillé là-dessus, Jacques Dupaquier, était un positiviste, donc il avait appliqué des catégories actuelles. Il avait, comme parfois les historiens, fait montre d'anachronisme. Et on ne savait pas grand-chose. Et l'idée de Gribaudi et de Blum, ça avait été de reprendre carrément les mentions manuscrites sur les actes de mariage. Ce qui était, on les avait, donc c'était possible. Donc c'était très compliqué. Il n'y avait pas passementier. Il y avait souvent des... Et ils avaient remarqué que... il s'était trouvé que l'élément pertinent pour comprendre les phénomènes notamment d'ascension sociale ou de changement de milieu social, c'était lorsqu'il y avait une double dénomination du... Et ça, justement, les méthodes classiques actuelles ne permettent pas, au fond, d'entrer dans ce genre de détails. Donc, c'est effectivement, en remettant en cause les catégories, on peut arriver à des... à des phénomènes beaucoup plus explicatifs. C'est souvent, elles sont souvent quelquefois une sorte de vitre opaque par rapport aux phénomènes qu'on est en train d'analyser. Vous avez raison, mais ça n'empêche pas au fond, ce que je vous ai montré. Et c'est vrai que à l'inverse, et au fond, c'est la méthode QCA dont a parlé Pablo, va dans l'autre sens, c'est-à-dire, et l'exemple que je vous montrerai peut-être tout à l'heure si on a un temps, ça consiste à réduire les catégories à deux, c'est-à-dire à prendre un critère, c'est au-dessus de la moyenne, au-dessous de la moyenne, mais à combiner beaucoup de catégories ensemble, de façon, au fond, à trouver des types, on peut dire. Je pense que ça n'invalide pas, enfin, c'est un petit peu, bon, ça croise ce qu'on vous a dit, c'est un souci constant d'avoir des catégories fines, mais par exemple, dans ce que je vous ai montré, effectivement, vous avez vu, quand on prend le chômage global, on obtient quelque chose qui est assez rassurant, et puis on prend un chômage plus particulier qui est le chômage de longue durée, et là, il y a autre chose, effectivement, donc là, vous avez tout à fait raison, mais parce que effectivement, vous avez raison que ça fait remonter de l'hétérogénéité si on prend des catégories, si on tronçonne les catégories grossières en catégories plus pertinentes. C'était au fond ce que montrait mon exemple.
Mais disons que c'est un vieux sujet, mais peut-être deux choses qu'on peut dire là-dessus. C'est qu'on retrouve, moi je suis peut-être un peu obsédé par cette histoire de centralisateur ou de vision globale, c'est-à-dire si un État où vous avez besoin de catégories générales, les génériques qui vous permettent de décrire quand même l'ensemble des individus dans pas trop de cases, etc. Donc c'est bon, c'est évidemment, et on voit qu'on peut remonter l'histoire de cette catégorisation et d'où elle vient. Et donc, disons, il y a une tension, je pense, entre des catégories très spécifiques à un cas donné, qui serait comme celle de Gribaudy, qui vous permettent, sur un cas précis, d'être plus pertinente sur ce cas-là, mais ensuite, qu'est-ce que vous en faites dans d'autres situations? Est-ce qu'elles sont toujours pertinentes ou pas? Voilà, je pense qu'il y a une tension qu'on ne peut pas tellement dépasser. Et il y a autre chose qui est intéressante, qui se développe aussi aujourd'hui. Donc là, on a fait des choses avec des big data, c'est-à-dire qu'il y a une tentation de dire on va faire émerger des données elles-mêmes, les catégories pertinentes. C'est-à-dire, on va essayer de ne pas superposer, enfin de ne pas forcer les données dans des cases préformées, mais on va essayer que ça émerge un peu de manière agile. Il y a des exemples, moi j'ai travaillé sur, par exemple, les disciplines scientifiques. Okay, c'est des catégories, la physique, la chimie, donc je suis bien placé, on est tous bien placés pour savoir que c'est des cases avec plein de fuites, etc. Et malgré tout, le poids politique et institutionnel que ça garde. Mais donc, une des choses qu'on a faites, c'est de prendre, par exemple, les articles publiés en France pendant 4 ans. Donc, vous avez des bases de données qui sont bonnes pour les articles en sciences naturelles, en tout cas, pas tellement pour les SHS, mais bon. Donc, vous avez des bonnes bases de données scientométriques. Et donc, vous pouvez prendre ces 320 000 articles, ça fait, et vous définissez une métrique dans cet espace-là qui est simple, qui est de dire deux articles se ressemblent s'ils partagent assez de références. D'accord ? Parce qu'en gros, les articles de chimie et de physique ne vont pas citer les mêmes personnes. Enfin, c'est un truc qu'on intuite que ça marche assez bien. Et donc, en fait, vous construisez un graphe avec ces 320 000 nœuds et des liens qui sont, si les articles partagent au moins deux références, par exemple, je mets un lien. Et une fois que vous avez fait ça, il y a énormément de techniques de clustering, de définition de communauté. Donc, vous pouvez dire, voilà, j'ai des sortes de régions denses de mon espace qui partagent énormément de références, et je veux dire que ça, c'est les disciplines, au sens émergent bottom-up, c'est-à-dire pas les disciplines au sens institutionnel, mais c'est, si vous voulez, une définition cognitive ou voilà, des disciplines. Vous pouvez essayer de regarder en quoi ça recoupe les 40 sections du CNRS ou les X sections du CNU, etc., et regarder, est-ce que vous trouvez là des regroupements d'articles qui correspondent à des dynamiques scientifiques de recherche, mais qui, si vous les analysez en termes de disciplines top-down, physique, chimie, sont très très hétérogènes. Et donc comme ça, on est allé à la pêche des domaines émergents, pluridisciplinaires, qui sont difficiles à choper si vous regardez, si vous adoptez d'emblée, on va dire, un regard défini par les disciplines. Et donc, voilà, on peut faire ça. Après, quelle est la... Voilà, quelle est, une fois que vous avez défini ces champs-là, c'est intéressant, je pense, sur ce problème précis de voir des domaines émergents. Mais est-ce que ces domaines émergents vont avoir, il y a un futur, vont avoir, est-ce que ça peut être des proto-disciplines, peut-être, parfois, puis des fois, c'est juste des trucs, ça s'évapore. Enfin, voilà, on retombe dans la tension, mais c'est entre généralité et particularité. Mais clairement, avec beaucoup de données, il y a des méthodes qui vous permettent, disons, de manière un peu automatique, d'explorer vos données sans trop mettre de contraintes, de catégorisation a priori. Donc c'est intéressant à explorer.
On a une question pour Hervé Lebras. Est-ce que vous pouvez revenir sur le diagramme du chômage entre l'immigrés et l'immigrés, le rapport entre les deux?
C'était celui-là, attendez. C'est celui-là. Hein.
Et oui. Alors, deux questions. Pour les syndicaux, donc le premier carré 18-25,
oui.
Donc après avoir regardé l'échelle. Je
vais laisser
à des ordonnées comme ça en 3D.
Oui, oui, oui.
Pourquoi est-ce que vous avez des éléments de réponse sur le fait que les personnes immigrées sans diplôme soient moins au chômage finalement que les personnes françaises sans diplôme? Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est quand on a un rapport de 1, donc, c'est-à-dire 25-35 fois brevet CEP ou encore 18-25 croisé CAP BEP, on a rapport de 1, donc ça veut dire qu'il y a autant de personnes immigrées que non immigrées qui ont un brevet ou encore un CAP. Pourquoi la valeur est la même entre guillemets? Est-ce que par exemple c'est expliqué par le fait que les jeunes immigrés aient accès à une instruction autant que les non immigrés? Et qu'après, à partir de ce moment-là, le gap va grossir, alors que jusqu'à un certain moment de la vie, on est à peu près...
Oui, merci pour votre question. Au fond, ce genre de graphique, mon livre n'est pas... comment dire? Mon livre n'est pas un livre d'explication sociologique des phénomènes ou d'explication économique. C'est plutôt une sorte de... d'encouragement à regarder de près les données pour, au fond, pour extraire des types, un peu comme celui dont tu viens de parler sur les noyaux scientifiques un peu cohérents. Là, c'est pour faire apparaître des questions, d'une certaine manière. Ceci dit, j'ai des hypothèses sur cela, et je pense qu'une des hypothèses possible pour le... Je vais répondre aux deux points. Au point sur les sans-diplômes qui sont immigrés, c'est un travail d'un sociologue inventif qui, d'ailleurs, je crois, a renoncé à la sociologie. C'est Nicolas Journet. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Qui avait fait un livre sur... il s'était engagé pendant une année dans une... comme spécialiste du fer à béton dans une boîte de travail intérimaire. Personne n'a lu son livre. C'est vraiment intéressant parce qu'il relate son expérience d'intérimaire. Donc, il avait caché qu'il était sociologue. Il avait fait auparavant, il avait suivi une formation de poseur de fer à béton. Et il montrait que... Il y a beaucoup d'immigrés chez une boîte de travail temporaire et la différence, ils ne sont pas plus mal payés, ils sont plutôt même mieux payés. Mais la différence, c'est le risque. C'est-à-dire, c'est des métiers, les boîtes temporaires, au fond, sont utilisées pour fournir des travailleurs qui courent plus de risques que d'autres travailleurs. Et que donc, mon hypothèse serait que ces sans-diplômes immigrés sont dans des métiers qui sont plus à risque que d'autres. Ils acceptent, au fond, ce que des nationaux... C'est la vieille théorie de les immigrés prennent les travaux dont les nationaux ne veulent pas. Donc là, je crois que ça s'éclairerait. Pour CAP, BEP, brevet, c'est pas impossible que j'ai été frappé par un chiffre qui est publié. Alors, vous savez que l'INSEE, maintenant, enfin, on peut avoir une vision de l'immigration d'une année à la suivante un peu plus claire que celle du ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur ne donnait que les entrées, qui sont des entrées légales, c'est la distribution des cartes de séjour. Or là, maintenant, l'INSEE, en comparant d'année en année ce qu'ils appellent les enquêtes de recensement, peuvent savoir qui entre et qui sort. C'est vraiment un très gros progrès. Et aussi, dans ce qui entre, on a leur niveau d'éducation et tout. Et il y a un résultat assez frappant et qui correspond là même au résultat donné par, d'ailleurs, au fond, sur le, mais plus clair avec l'INSEE, mais avec le résultat du ministère de l'Intérieur, c'est qu'il y a des différences de niveau de diplôme selon les origines. Et dans le niveau moyen, l'année dernière, le chiffre des proportions d'immigrés qui avaient un bac ou un diplôme universitaire, dans les immigrés qui sont arrivés, donc étrangers, c'est 63%. Il ne faut plus qu'on décrive l'immigration comme des pauvres gens, etc. Quand on regarde par nationalité, les Tunisiens doivent être à 65%, les Marocains à 55%, vous voyez, c'est donc pas simplement des Européens, et les Portugais sont à 28%. Donc c'est ce type de... Et il y a peut-être là l'explication. Pourquoi ? Parce que, au fond, l'immigration, un jeune Portugais qui va arriver en France, c'est parce que, je pense, le mécanisme, c'est qu'il est recruté par une petite entreprise fondée par des Portugais de la génération précédente. Et c'est, au fond, un jeune qui n'a pas très bien réussi au Portugal, où les possibilités, en plus de ça, d'accession à un emploi sont dures. Donc, il est engagé. Ça se faisait dans l'Amérique d'autrefois. On faisait venir un mauvais garçon qui avait un peu raté ses études. Hop, on le faisait venir. Je sais que, par exemple, en Grèce, il y a une trentaine d'années, les Grecs qui étaient un peu des fortes têtes, qui ne réussissaient pas leurs études, on s'arrangeait pour qu'on les envoyait chez les commerçants ou les Grecs en Afrique ou bien au Proche-Orient ou bien en Australie. Donc, vous voyez, donc je suppose que là-dedans, c'est des immigrés, parce que j'ai immigré que globalement, ça rejoint la remarque qui a été faite sur qu'est-ce que ça veut dire immigrer entre un immigré chinois. Les Chinois sont, qui arrivent en France, c'est 85% la proportion de bac et études universitaires. Hein, donc on a là toute la gamme. Mais pour répondre à votre question, mon hypothèse serait sur ce type, vous voyez, quand on entre dans le type de migration. Mais au fond, pour défendre un petit peu ce graphique, je dirais, c'est ce graphique qui oblige à non pas à dire c'est la bonne hypothèse, c'est ce qui se passe, mais à dire voilà, on, cette fois-ci, on peut aller chercher de ce côté-là. Il y a vraiment quelque chose qui se passe, qui est différent, et vous avez bien raison de le souligner. Oui.
J'ai une question globale. Comment on fait pour estimer une part d'erreur de tout ce qui est ce qu'on pourrait appeler des variables silencieuses, du style quand on parle du chômage et de l'emploi, par exemple le travail au noir ou toutes les questions plus informelles? Comment, quand on est mathématicien ou plus du côté du quantitatif, on prend en charge des choses
Le travail informel, on l'a pas, là, c'est absolument... Simplement sûr, il reste, ceci dit, n'est pas très... Enfin, il y a des enquêtes sur le travail informel menées par la DARES, mais c'est pas un problème aussi grave en France que ça peut l'être en Angleterre, notamment, mais bien sûr dans un certain nombre de pays du Sud. Donc, mais je ne sais pas, sur un graphique comme ça, je ne suis pas capable de vous répondre sur la part de travail au noir, mais d'une certaine manière, ça irait dans le sens de ce que je vous ai dit, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en plus de ça, il y en a qui travaillent et qui ne se sont pas déclarés comme travailleurs au noir, parce que ça touche plutôt des métiers non qualifiés.
Est-ce que justement, pour se pousser dans le cliché, les personnes qui travaillent au noir dans le bâtiment ont non seulement un risque plus élevé, mais donc ça pourrait faire des corrélations,
mais... Oui, tout à fait.
Je voulais juste ajouter un point méthodologique auquel je pense sur la formalisation sur les systèmes sociaux. Une question qui est intéressante, c'est l'articulation entre la formalisation et puis ce qu'Hervé vient de faire, c'est-à-dire l'interprétation. Comment est-ce que, voilà, à partir d'un graphe, comment ça, un graphe, ça fait parler, en fait? Parce que c'est ça qui... Donc, il ne faut pas attendre de la formalisation qu'elle vous donne des réponses, évidemment. Enfin, vous n'êtes pas positiviste, a priori, dans la salle, mais c'est là, d'un coup. Mais d'un autre côté, donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est les différentes méthodes formelles que vous utilisez vont vous faire parler et vous faire poser des questions différentes, en fait. Donc, Hervé Rosière a écrit beaucoup de choses là-dessus. C'est-à-dire, si vous faites des régressions, vous utilisez, il regarde qu'est-ce qui agit dans les régressions. Donc, c'est les variables, et donc, vous allez parler des variables, l'âge a tel effet, ou la CSP a tel effet, etc. Et ce qui est intéressant, donc je me suis rendu compte aussi en utilisant cette QCA où on fait des configurations en fait, hein, bon, c'est une autre méthode, et ça vous pousse tout de suite à vous poser des questions sur tiens, j'ai un profil qui a ça, et tiens, j'ai des exceptions, et donc vous allez aller rechercher au niveau des individus pourquoi il y a un individu qui est comme ci, comme ci, comme ça, n'a pas lui été promu par exemple, parce que moi j'ai utilisé ça pour les promotions au CNRS par exemple, et donc. Et c'est assez intéressant, quand vous utilisez un formalisme, ça vous met dans des conduits, enfin ça vous conduit à vous poser certaines questions, alors que si vous faites des régressions, vous ne poserez pas du tout les mêmes questions. Donc enfin, c'est un truc intéressant. Et voilà, et ce genre de graphique, ça vous aiguille sur certaines questions et ça vous cache d'autres questions par contre. Donc c'est aussi une sorte de pluralisme méthodologique. Il faut essayer de triturer vos données avec plein d'outils différents, ça vous apprendra toujours des choses quand même.
Autre question. On vous a quand même pas convaincu là. Ou bien alors. Ou alors c'est pas assez polémique.
Du coup, moi j'ai une question. Pour rester un peu dans le champ de l'épistémologie et du dialogue entre interprétation et formalisation, tous les deux, je crois, enfin. Hervé Lebras et Pablo Gentil, vous travaillez en dialogue avec des mathématiciens, mais aussi avec des sociologues. Et du coup, comment le dialogue disciplinaire et interdisciplinaire, il se passe concrètement?
À toi, Pablo.
La première réponse, ça serait qu'il ne se passe pas, quand même. Enfin, si on veut aller premier degré, c'est en général, il ne se passe pas tellement, quand même. Enfin, d'accord. Donc il faut le forcer un peu, enfin disons, donc c'est difficile de donner une réponse un peu générale à ça, mais souvent quand même on voit que si on veut faire collaborer comme ça dans l'absolu, ça mène pas à grand chose. En fait, et souvent les collaborations qui sont intéressantes, c'est quand vous avez vraiment un objet précis ou une technique précise qui est vue des deux côtés comme intéressante en fait. C'est-à-dire que ça se force pas tellement l'interdisciplinarité, vraiment. Et j'aime bien, donc il y a un historien des sciences qui s'appelle Peter Gallison qui a écrit, donc qui avait étudié lui la mise au point de la bombe atomique pendant la Seconde Guerre mondiale, et il avait montré que, donc ça c'était un projet très interdisciplinaire, hein. Vous aviez des ingénieurs, des physiciens, vous aviez des informaticiens à l'époque, hein, des matheux, etc., etc. Et il avait sorti de là le concept de trading zone, donc qui est un... En fait, à l'origine, trading zone, c'est, je crois, pour les linguistes, enfin, s'il y en a dans la salle, je ne dis pas trop de bêtises, mais c'est en gros, donc ce que disait Gallison, c'est, vous avez deux cultures qui parlent des langues différentes qui se rencontrent, a priori, donc ils ne se comprennent pas, et donc ils peuvent s'ignorer, mais s'il y a en général, pour des raisons commerciales, s'ils s'échangent des objets, ou etc., ils vont commencer à développer une sorte de pidgin, enfin, quelque chose qui leur permet de se comprendre autour de cet objet-là, en fait. Éventuellement, ça pourra devenir des langages un peu plus complets, et même des langues, en fait. Il y a plein d'exemples historiques, mais en gros, c'est quand même déjà limité autour d'objets. Je pense que c'est une image qui n'est pas trop mal pour les disciplines. Des disciplines parlent des langues différentes, parce qu'elles sont intéressées par des choses différentes, mais des fois, sur certains objets, il y a vraiment un intérêt qui est assez différent des deux côtés, mais qui justifie le fait que, voilà, on continue à commercer. Et donc on développe une sorte de langage commun, et des fois, donc, je sais pas, on a plein d'exemples de la bio et de la physique qui ont donné la biophysique autour des molécules de l'ADN, etc., parce qu'on a fait de la diffraction et qu'on a voulu faire des caractérisations physiques de ces molécules qui évidemment étaient très intéressantes pour les biologistes, mais à chaque fois, en gros, il me semble, c'est des opportunités et des cas un peu spécifiques. Vous avez un truc qui intéresse les deux, on y va, on crée des choses qui sont plus ou moins temporaires, des fois c'est vraiment ça. Ça éclot, puis souvent, mais disons que ça, mon expérience, c'est que ça ne se force pas tellement. Quoi. Les disciplines restent quand même des langues assez différentes. Et il faut vraiment une bonne raison pour les motiver à faire cet effort. En fait. C'est un peu cette, cette expérience-là. Mais maintenant,
Oui, moi, c'est peut-être... Oui. Je vais citer un autre livre. C'est un livre de Althusser qui s'appelle « Philosophie et philosophie spontanée des savants ». Est-ce que vous avez... C'est un très joli petit livre, tu le connais. Hein, c'est très lisible, hein. C'est pas le Althusser refondateur de Marx. C'est justement, et c'est en partie lié à la question, c'est un des cours qu'il avait donné à Normal Sup, des cours de philosophie à usage des scientifiques. Donc, il s'est mis au niveau. Mais c'est Althusser, à un moment donné, il se déchaîne contre la pluridisciplinarité. Et il en dit une chose intéressante. Il dit, en fait, dès que je vois un programme pluridisciplinaire, je sais que c'est le moyen pour chacune des disciplines d'affirmer son existence. Et c'est un peu vrai, si vous voulez. Il y a une forme de pluridisciplinarité où... on met un sociologue, un géographe, un biologiste ensemble, parce qu'il faut que le sociologue soit sociologue, que le géographe soit géographe, et que le biologiste soit biologiste, et on espère que ça va marcher. Et la réponse à ça, je pense, est quand même plutôt, du moins, ça aura été ma réponse peut-être personnelle, c'est que c'est à l'intérieur de l'individu que la pluridisciplinarité se fait. C'est-à-dire, bien sûr, elle n'est jamais aussi bonne que quand on est dans une seule discipline. Mais je pense qu'il faut personnellement aller vers d'autres disciplines et commencer à comprendre leur fonctionnement. Alors c'est énorme, on ne peut pas tout faire. C'est plus facile en sciences sociales que dans d'autres domaines parce que les limites sont un peu plus floues et au fond le degré de conceptualisation est un peu plus faible quand même que dans les sciences de la nature. C'est vrai que vous êtes sociologue, vous n'allez pas pouvoir très facilement comprendre la théorie des cordes ou la mécanique quantique. Là, vous serez un peu... Mais même la mécanique quantique, vous pouvez y aller avec le petit livre de Feynman. Ça peut être quelqu'un qui a fait terminal scientifique peut y arriver. Hein. C'était l'idée de Feynman. Donc je crois qu'il ne faut pas être hésitant à entrer dans d'autres disciplines. Ça a été d'autant plus facile pour moi que je suis dans une toute petite discipline. La démographie, c'est très bien, parce qu'on peut tout de suite en sortir. Hein. C'est une fois qu'on a fait le tour, et ça ne vous prend pas très longtemps. Et à ce moment-là, et en plus de ça, elle s'enrichit. Justement, on peut aller faire, c'est un peu ce que, si vous avez cité au début mon cursus, je suis allé, à un moment donné, j'étais un peu anthropologue, à un moment donné, j'ai été aussi un peu architecte, à vrai dire, et je vais vous donner un exemple que vous avez sous les yeux, c'est que, au fond, ce que m'ont appris les architectes pendant 20 ans, j'ai donné un cours chaque semaine qui était aux architectes de première et deuxième année, un cours d'introduction à l'espace. Ça comprenait à la fois de la géométrie classique, perspective, descriptive, mais aussi un peu d'histoire des sciences, d'histoire de la catégorie d'espace, comment elle avait été perçue depuis l'Antiquité. Et je faisais d'ailleurs souvent cela avec ce qu'on appelait des gens, des plasticiens maintenant, des gens qui faisaient du basic design, donc qui étaient vraiment aussi orientés, des questions de théorie des couleurs. Et du coup, ça m'a amené justement à comprendre une chose très importante. L'architecte sait bien qu'il a une très forte différence entre le projet qu'il construira et les représentations qu'il va donner de ce projet. Et, par exemple, un exercice que je donnais, c'était en première année, ils devaient choisir un bâtiment et une équipe dessinait le bâtiment du point de vue de l'architecte qui cherche à vendre le bâtiment. Et l'autre équipe, du point de vue, dessinait le bâtiment, ils faisaient une perspective, du point de vue du comité de défense de l'environnement qui ne veut pas que le bâtiment soit construit. Et sur le même bâtiment, on arrive à des résultats extraordinairement différents, même sans tricher. Donc, une même réalité peut être présentée très différemment. Et du coup, Si vous voyez que j'utilise beaucoup, comme ici, si vous voulez, cette perspective, ça vient de là. C'est-à-dire, je me suis rendu compte, et ça rejoint ce que disait d'ailleurs Pablo, c'est qu'il y a des tas de modes de représentation différents, et donc il faut, faire tourner les objets dans l'espace ou et multiplier les angles par lesquels on va regarder les données. En plus de ça, j'espère que c'est peut-être un peu dur ce que je vous montre là, mais par exemple, la cartographie est un outil formidable pour montrer des choses, et aussi justement de travailler la cartographie de façon à en extraire ce qui est... par exemple, si je vous montrais cette carte, la carte que vous voyez en haut du Front National, vous voyez qu'elle est extraordinairement typée. Si je vous montre, elle est faite à partir des communes. Si je vous montrais la carte à partir des communes telles quelles, il y aurait du clignotement, vous ne verriez pas grand-chose. Donc là-dedans, justement, il y a une opération, mais on peut chercher d'autres méthodes que celles que j'emploie. Mais le but de la méthode, c'est d'essayer de rendre lisible les choses, c'est-à-dire justement de commencer à pouvoir se poser des questions, comme on l'a vu tout à l'heure, par rapport à ça. Et je n'aurais pas fait cela si je n'avais pas eu ce très long contact avec les architectes. Alors mes couleurs sont souvent critiquées, mais ça m'a obligé à regarder de près tout ce qu'a été la théorie des couleurs, qui est quand même un domaine énorme qu'on étudie très peu dans les autres disciplines et qui intéresse beaucoup les architectes et les designers. C'est-à-dire on est tous formés à la théorie newtonienne des couleurs, c'est-à-dire les couleurs, c'est des longueurs d'onde. Mais ce n'est pas du tout ça, l'histoire des couleurs. C'est très vite, les artistes, les architectes savent que c'est la confrontation des couleurs qui compte. C'est le rapport qu'elles entretiennent entre elles et pas du tout leur valeur physique. Donc là, je dirais d'avoir mis un pied... Je serais incapable de construire un bâtiment, si vous voulez, mais d'avoir mis un pied dans ce métier, d'avoir été, d'avoir travaillé, ce que tu disais aussi, c'est le travail en commun cette fois-là, d'avoir travaillé avec des architectes, m'a amené justement à modifier, ou à, peut-être pas modifier, mais surtout à voir l'importance qu'ont les questions de représentation. Et je crois que... Alors, c'est plus difficile pour un physicien d'être à la fois sociologue et biologiste, etc. Il faut quand même, bien sûr, rayonner autour de son centre. Moi, mon centre, vous l'avez vu, est petit, mais on peut aller loin. Je suis frappé dans... Je suis un lecteur comme le... Je ne suis pas d'accord avec lui sur un grand nombre de trucs, d'Alain Badiou. Et Alain Badiou écrit formidablement bien sur les mathématiques. Si vous avez lu, il a fait deux ouvrages sur les mathématiques, parce qu'il est entré, il a lu la correspondance entre Cantor et Dedekind au moment de la fondation des maths modernes. Il a un réel intérêt pour les mathématiques. Pourtant, c'est une philosophie, vous connaissez, il y a ces bouts de maoïsme et tout, ça n'a rien à voir avec les mathématiques. Mais, et du coup, il apporte de cette culture très différente, il apporte notamment plus qu'à l'histoire, à la compréhension des mathématiques, quelque chose qui est extrêmement fort pour vous donner, je ne sais pas si tu connais mieux les choses que moi, mais il dit au fond, les mathématiques modernes, d'habitude, au fond, les mathématiques anciennes pour l'arithmétique, c'est on les construit à 1 plus 1 égale 2 plus 1, etc., n plus 1, etc. Et le renversement opéré par Cantor et Dedekind, c'est de partir de l'infini pour construire les mathématiques. Je trouve que c'est une idée, je ne sais pas ce que j'en pense, mais il y a une idée très forte là-dedans. Et pour avoir cette idée-là, il faut qu'il soit frotté aux mathématiques. On n'a pas cette idée-là comme ça rapidement. Donc même un philosophe comme Badiou peut être, de ce point de vue-là, pluridisciplinaire. Alors si ça se trouve, en biologie, il dira des bêtises. En politique, j'estime qu'il dit des grosses bêtises. Mais on ne peut pas tout savoir. Mais là, voilà un exemple de croisement qui est vraiment intéressant. Il y a d'autres philosophes qui se sont intéressés aux mathématiques, mais par exemple, là, il y a un philosophe un peu plus, enfin, des années 60, Jean-Dominique de Santi, qui avait écrit un gros traité sur ce s'appelle Les idéalités mathématiques, où il avait cherché à définir les maths modernes, mais c'était moins réussi, je trouve, que c'était plus un travail vraiment de philosophe, alors que chez Badiou, il y a une sorte d'intérêt même pour... au fond, c'est aussi cela, la pluridisciplinarité, c'est être intéressé par le fond de la discipline dans laquelle on entre.
Et ça, peut-être justement, c'est... Moi, je vois une vie un peu biaisée par mes collègues qui viennent, on va dire, de la physique informatique et qui prennent ce nouveau matériau qui sont, les données sociales, et ils n'ont pas forcément cette, on va dire... tendresse pour les disciplines qui s'en occupaient jusque-là. C'est-à-dire qu'ils viennent, ils arrivent avec leur méthode et puis ils disent, enfin bon, on en connaît en commun. Voilà. Et du coup, effectivement, le risque de l'interdisciplinarité, c'est aussi d'être très superficiel sur la discipline qu'on ne connaît pas, évidemment. Voilà. Et donc ça, malheureusement, c'est peut-être plus fréquent que, la vision intéressante, parce que un peu décalée. Et voilà, donc il faut faire un petit peu attention, il faut vraiment que ce soit avec une bonne, ça part d'un bon sentiment, on va dire, d'intérêt vraiment, voilà, mais bon.
Pour ajouter au débat, effectivement, enfin, pour votre question, je pense qu'il ne faut pas partir des disciplines, justement, et ce que disait Pablo Jensen est tout à fait juste, il faut avoir un objet en commun, et puis après, on reste dans un champ disciplinaire, on va être sociologue parce qu'on sait poser des questions de sociologie, on va être géographe parce qu'on sait poser des questions de géographie, mais après, c'est surtout la démarche et les questions qu'on se pose. Et c'est là-dessus qu'il faut... Enfin, voilà, il faut avoir cette ouverture d'esprit, d'avoir pu, effectivement, aller dire, tiens, que disent les sociologues, ou que vont dire les philosophes, mais enfin, moi, plus je fais de la géographie, parce que je suis géographe, moi, je me dis qu'il faut... Enfin, je sais poser des questions de géographie, donc je sais que j'aborderai toujours une question par la question spatiale, comment je peux expliquer l'effet de localisation dans l'espace. Mais je sais que je vais avoir besoin d'autres méthodes, et que la science sociale, c'est vraiment dans la démarche. Et à vous écouter l'un et l'autre, je me dis qu'il y a vraiment un faux débat qui traverse nos disciplines, c'est le quantitatif et le qualitatif. On revient tout le temps là-dessus. Et en fait, vous le montrez vous-même que vous manipulez du quantitatif avec de la modélisation, de la formalisation, de la modélisation statistique. Et en même temps, il y a un moment où vous arrivez à un moment où vous ne pouvez pas l'expliquer. Donc c'est là où on sait que c'est le qualitatif qui va vous permettre d'expliquer. Et vice-versa. Donc il y a un moment où il faut arrêter de se rendre compte à se dire qualitatif versus quantitatif. Il y a un moment où les apports peuvent être très riches. Mais effectivement, on est dans des domaines de méthodes très vastes. Et c'est là que si on garde notre petite entrée disciplinaire, parce qu'on a notre question d'historien, de sociologue, je ne sais pas quoi, je pense que c'est là que le dialogue peut être fécond et qu'on peut croiser, mais il ne s'agit pas de faire de devenir physicien ou de devenir sociologue. Enfin, je pense qu'il faut. On a des champs qui peuvent se croiser. Pas toujours évident, mais. Donc faut arrêter, voilà. C'est le département des sciences sociales, on va essayer de ne plus parler discipline. C'est de croiser des approches et des méthodes et des démarches communes aux sciences sociales. Et voilà,
on
peut le faire ici.
Oui, non, vous avez. Quand en 1976, l'école où je suis, l'école des hautes études en sciences sociales, a reçu son statut. À la suite de ça, le Nouvel Observateur avait interrogé. C'était le Nouvel Observateur de l'époque, avait interrogé, je crois, il y avait Touraine. Morin, Lévi-Strauss, puis un quatrième, et Furet, qui était là. En chœur, les quatre avaient dit « L'école des hautes études en sciences sociales ne s'occupe pas de discipline, mais de problèmes. » Donc vous êtes tout à fait dans la ligne de 1976. Je dois dire, en étant un peu méchante langue, qu'elle est un peu revenue vers les disciplines. Et oui, hélas, bon.
Non, mais il faut, disons, moi j'aime bien, c'est peut-être aussi une idée fixe, mais de tension, c'est-à-dire que vous avez quand même besoin de former aussi à ce regard. C'est-à-dire, vous dites, vous savez avoir le regard de géographe, vous l'avez quand même appris avec des géographes, et il y a cette tradition dans laquelle il faut s'imbiber de ça, parce que sinon on pose aucune question, enfin disons on perd quand même le bon côté des traditions, c'est enfin, de la tradition disciplinaire qui est le fait que voilà, on réinvente pas les trucs à chaque fois, on a développé des outils, etc. Et donc, et ces choses-là, on prend quand même du temps à les apprendre. Et donc, bon, il y a quand même voilà. Alors après, est-ce que bon, là, disons, je pense qu'un point délicat derrière, c'est donc les disciplines sont quand même très bien fondées du point de vue cognitif, elles sont indispensables. Mais après, il y a l'autre question qui est la gouvernance de l'institution par les disciplines, d'accord, qui est, a priori, ça pourrait être... Enfin, on ne voit pas de lien complètement logique et évident entre les deux. Enfin, bon. Et là, après, ça, disons, le fait que ce soit au niveau politique, on va dire que les disciplines et le pouvoir, ça rend des choses interdisciplinaires très difficiles derrière. Parce que, voilà, ça, oui, mais si on te donne un poste, d'accord, enfin, vous connaissez les histoires. Alors que... Elles ont une légitimité cognitive, on ne les met pas en cause, mais il faut arriver à combiner la légitimité cognitive et pas, enfin, une légitimité politique, scientifique, je parle, qui soit au-dessus. Et ça, voilà, c'est-à-dire que bon, il y aurait des manières de le faire, mais c'est pas trivial. D'autres questions ? Dériver vers l'interdisciplinarité, c'est pas forcément, mais bon,
c'est pas grave. Ce qu'on a dit,
oui.
On illustrait, puis on est un peu sur ce créneau.